Objectif Startup, l'émission qui décrypte l'univers des startups. Présentée par Bérénice Deville sur Cowork la radio.
Bonjour à tous, bienvenue dans Objectif Startup. Comme chaque semaine, je reçois le fondateur d'une startup. Aujourd'hui, c'est Benjamin Lanneau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes CEO et fondateur d'ITIC. Alors, avant toute chose, pouvez-vous nous présenter ITIC, entreprise à mission?
Oui, tout à fait. Alors, merci de me recevoir, Bérénice, dans cette émission. Je suis très heureux de pouvoir présenter ITIC. Alors, ITIC, c'est vraiment très simple. Hein. C'est une plateforme de livraison de repas 100% végétarien ou vegan. Donc, c'est une application mobile, très simplement, qu'on peut télécharger sur iOS ou Android. C'est aussi un site web qui va permettre à l'utilisateur de se géolocaliser, de trouver un restaurant proche de chez lui, de sélectionner le repas qu'il souhaite se faire livrer et ensuite, soit de le récupérer en click and collect, soit de se faire livrer par un livreur prioritairement à vélo en moins de 30 minutes.
Donc le click and collect, c'est possible également?
Tout à fait, c'est une option que l'utilisateur va choisir au moment du check-out.
Donc la valeur ajoutée, qu'est-ce que c'est par rapport à Uber Eats, à Deliveroo, bon, qu'on connaît bien? C'est quoi? Donc une sélection plus large, un sourcing plus large de restaurants vegan, j'imagine?
Alors tout à fait, nous, vraiment, notre vision quand on a lancé la boîte, c'était de se dire qu'on voulait faire finalement de la livraison un petit peu différemment. En fait, pour revenir un petit peu en arrière, l'idée nous est venue pendant le confinement, pendant le Covid. On se faisait beaucoup livrer au bureau de repas parce que c'était finalement la seule façon d'accéder, ouais, au restaurant qui était fermé par la force des choses. Et on s'apercevait finalement que ça correspondait pas exactement à ce qu'on recherchait. Hein. C'était souvent des restaurants qui étaient pas très bons, beaucoup de fast-food, c'était beaucoup d'emballage. Donc on s'est dit finalement peut-être qu'il y a une autre façon de faire. Et on a été voir des restaurateurs, des amis qu'on connaissait. On leur a dit, finalement, vous, aujourd'hui, vous faites comment? Est-ce que vous êtes sur les plateformes? Est-ce qu'il y a, s'il y avait finalement une application qui était plus alignée avec vos valeurs, est-ce que ça vous conviendrait? Et là, on a eu vraiment un son de cloche assez unanime des restaurateurs qui nous ont dit, nous, on aimerait vraiment pouvoir bénéficier de ce type de service. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'on allait lancer ITIC. Donc, pour répondre très concrètement à la question, effectivement, nous, on a fait le choix de proposer une alimentation qui soit uniquement végétarienne ou végane. C'est pas un choix dogmatique ou sectaire, c'est vraiment en fait parce que cette alimentation, elle va avoir un impact sur l'environnement qui va être en moyenne 6 fois moins important en termes d'émissions carbone ou d'équivalent d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est plus vertueux et puis aussi finalement pour la santé, ça va être mieux pour les consommateurs. Donc effectivement, on va avoir une sélection de restaurants qui proposent ce type d'alimentation, soit que ce soit des restaurants 100% végétariens ou vegan, soit que ce soit des restaurants tout simplement qui proposent des plats qui vont correspondre à ce type d'alimentation. Je donne un exemple très concret, hein, une pizzeria, la pizzeria du coin chez vous, elle va avoir en moyenne 3-4 plats de pâtes, 4 pizzas qui vont être compatibles avec ce mode d'alimentation. Donc l'idée, c'est vraiment pas de renoncer au goût, au côté vraiment gourmand. Hein. Nous, on est vraiment très passionnés de gastronomie. Hein. L'idée, c'est au contraire, de se faire plaisir, mais en essayant d'être un peu plus vertueux.
Oui, ça, c'est une de vos garanties aussi, le côté gourmand, des repas gourmands tout de même, hein, même si c'est vegan, il n'y a pas que des graines.
Ouais, tout à fait, et merci de le dire. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup, je dirais, dans notre société, hein, et c'est tout à fait normal, d'appréhension, ouais, de clichés, de peur. On a l'impression, finalement, que c'est des graines, de la salade, alors qu'en fait, on va retrouver dans cette alimentation toute la diversité, des cuisines qui existent, hein, dans le monde. Aujourd'hui, sur ITIC, vous avez un peu plus de 400 restaurants qui sont référencés à Paris, à Lille et à Lyon. On est aussi disponible en petite couronne. Et vous allez retrouver vraiment des tas de cuisines différentes. Hein. On a de la cuisine italienne, des sushis, des bowls méditerranéens, de la cuisine africaine, évidemment des burgers. Donc vous allez vraiment retrouver toute la diversité des plats pour vous faire plaisir.
Donc ça existe aussi en version végane. Vous parliez des emballages plastiques, ça aussi c'est important pour vous. Donc vous travaillez donc avec des, enfin vous proposez, vous êtes en partenariat avec des restaurants qui garantissent un minimum, c'est ça, d'emballage, le moins d'emballage possible. Comment ça fonctionne?
Exactement. Je pense qu'on a tous fait l'expérience en se faisant livrer soit chez soi, soit au bureau, un peu des tonnes de plastique qu'on retrouve après le repas.
Et c'est vrai qu'on culpabilise.
Voilà, exactement. Ouais. Et finalement, il y a des solutions contre ça. Donc nous, ce qu'on demande aux restaurants collaborateurs, quand ils sont référencés sur Itik, c'est plusieurs choses. Ils vont signer et adhérer en fait à une charte qui va porter sur l'ensemble des valeurs, si vous voulez, de la restauration, que ce soit le sourcing des produits, leur transformation, la saisonnalité, mais aussi l'emballage, voilà, qui est un point important. On a été d'ailleurs la première plateforme de livraison de repas à proposer la livraison dans des emballages consignés. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 30% des restaurateurs sur la plateforme qui vont proposer de se faire livrer dans des emballages consignés. Donc il y a plusieurs partenaires qui vont intervenir pour proposer des emballages consignés.
D'accord, donc eux se font livrer via des emballages consignés.
Exactement. Alors, en fait, vous avez aujourd'hui des entreprises qui sont spécialisées dans la consigne, qui vont mettre à disposition les contenants, que ce soit des contenants en plastique, en verre, des bento. Enfin, il y a différentes sortes. Il y en a plusieurs avec lesquels on travaille. Il y a Gringo, la consigne. Vous avez N-Repeat. Enfin, il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui se positionnent sur ce marché, qui vont voir directement les restaurateurs. Nous, on met aussi nos restaurateurs en relation avec eux pour qu'ils mettent ça en place. Et puis ensuite, nous, on propose au checkout, vous sélectionnez l'option consigne et vous faites livrer, et ensuite vous pouvez aller remettre, si vous voulez, votre contenant dans la chaîne avec des restaurants, des points de drop-off pour ce contenant.
Autre chose très importante chez vous, chez Itik, c'est le bien-être des livreurs, le respect des livreurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet ?
Alors, tout à fait. Je pense que beaucoup de gens sont un petit peu revenus des plateformes qu'on connaît de livraison parce que, il y a un traitement des livreurs qui, humainement, n'est pas correct ou pas juste. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le choix de travailler avec une entreprise qui s'appelle Stuart, qui est une entreprise filiale du groupe La Poste, une entreprise française qui garantit des livreurs qui vont livrer prioritairement à vélo. Donc nous, c'était important en cohérence, si vous voulez, avec notre positionnement, qu'il n'y ait pas d'impact carbone sur le mode, sur le véhicule, sur le mode de livraison. Donc ça, c'était un premier point. Et puis l'autre point qui nous a semblé convaincant dans la proposition de Stuart, c'est que eux vont rémunérer leurs livreurs en moyenne 35% de plus que ce que vous trouvez sur les autres plateformes. Donc ce qui n'est pas négligeable, avec des garanties de minimum par course, qui est beaucoup plus juste que des systèmes uniquement au kilométrage, par exemple. Donc ça nous a semblé plus vertueux. Et puis il y a un autre aspect, je pense, qui est important, c'est qu'aujourd'hui sur un certain nombre de plateformes, les livreurs vont être gérés par des algorithmes, par de l'intelligence artificielle, qui certes va permettre d'optimiser un certain nombre de choses, mais qui va être moins humaine finalement, ou si vous avez une note ou des étoiles en moins, vous n'allez plus avoir accès aux courses. Donc aujourd'hui, Stuart a l'avantage de proposer des système de gestion de leur flotte avec des managers, avec des humains à qui ils peuvent parler et également avec des processus de mobilité interne dans leur entreprise. Donc ce qui nous semble plus vertueux. Après, nous, on n'est pas pieds et poings liés, si je puis dire, avec cette entreprise. On travaille aussi avec d'autres organismes, d'accord, avec des coopératives de livreurs, notamment pour tout ce qui est la précommande, puisque sur Itik, vous avez la possibilité de précommander votre repas, c'est-à-dire pas en 30 minutes, mais vous dire, deux heures avant, un jour avant, je souhaite commander dans mon restaurant, et à ce moment-là, on va pouvoir faire intervenir aussi des coopératives de livreurs qui sont implantées localement, etc. On le voit notamment pour les fêtes de Noël. Beaucoup de gens veulent prévoir leur repas, et c'est des choses qu'on voit de plus en plus.
Alors, est-ce que, du coup, vous l'avez dit, les livreurs sont mieux payés que sur les autres plateformes. J'imagine que ça se répercute sur le consommateur, sur le coût du consommateur.
On a la chance sur Itik, en fait, d'avoir un panier moyen qui, globalement, va être un petit peu plus élevé que chez nos concurrents. Ça s'explique de deux façons. La première chose, c'est que beaucoup sur Itik de gens commandent soit à deux, soit à plusieurs. Donc, naturellement, vous avez un panier qui va être plus élevé. Et puis également, comme on ne référence pas que des fast-food, vous avez un price point va être un tout petit peu plus élevé. Encore que, vraiment, sur Itik, vous pouvez commander un repas pour moins de 14 euros, moins de 12 euros. On n'est pas du tout un service
livraison
élitiste.
Inclus,
tout à fait. On n'est pas un service élitiste ou premium, mais néanmoins ce panier va nous permettre, si vous voulez, de pouvoir payer un tout petit peu plus la livraison.
Donc les villes, vous en avez parlé, Paris, Lyon et Lille. Vous avez commencé par Paris, j'imagine.
Exactement, oui.
Et puis Lyon, Lille, est-ce qu'il y a d'autres villes sont dans votre viseur ?
Effectivement, pour 2023, notre but, c'est d'être présent dans les 10 plus grandes villes françaises. Donc on va également s'implanter à Nice, à Marseille, à Toulouse, à Strasbourg, à Rennes. Donc ça va s'étaler sur l'année 2023. Le but, c'est d'être présent là où nos clients sont présents, là aussi où nos partenaires restaurateurs sont présents. On a beaucoup de demandes entrantes finalement de restaurateurs qui nous disent alors voilà, quand est-ce que vous arrivez dans ma ville. Donc nous, on a mis en place un plan pour se déployer sur ces villes françaises l'année prochaine.
Du coup, les profils des consommateurs, c'est quoi? Plutôt des cadres, des jeunes actifs qui n'ont pas le temps en fait de se préparer à dîner le soir, qui vont commander?
Alors on est aussi bien une plateforme du midi que du soir, un tout petit peu plus du soir, hein, pour vous donner les grandes ordres de grandeur. On est à 60% de commandes plutôt le soir et 40% plutôt le midi. On va avoir évidemment des profils urbains puisqu'on est un business local, hein, finalement. On livre dans un rayon maximum de 5 km d'un point de vente. On va avoir des publics plutôt jeunes. 80% de nos utilisateurs vont avoir en dessous de 35 ans. Donc public urbain, plutôt jeune, plutôt CSP. Effectivement, des gens qui vont avoir un niveau bac plus 3 en moyenne et un public plutôt féminin aussi. 70% de nos utilisateurs sont des utilisatrices.
D'accord, c'est marrant d'apprendre ça. Alors, on va parler de la sélection. Là, vous disiez tout à l'heure que certains restaurants, voilà, vous demandent quand est-ce que vous venez dans notre ville. Comment vous vous y prenez? Est-ce que c'est compliqué de sélectionner les restaurants?
Alors, effectivement, on va avoir deux modes de sélection. On a des demandes entrantes, donc on va étudier, on va regarder le menu qui est proposé par le restaurant aussi.
Vous testez aussi?
Alors, on teste beaucoup, effectivement. Ça, c'est avec l'équipe, ça fait partie d'un des plaisirs de notre activité, c'est que tous les midis, on va tester les restaurants. Après, malheureusement, on peut pas tester la totalité des restaurants, mais on fait partie d'une communauté. On a une communauté d'un peu plus de 20 000 abonnés sur Instagram qui nous conseille des restaurants, qui nous en recommandent, qui vont nous dire plutôt celui-là, n'y allez pas. Donc, en fait, ça va être une curation, hein, si vous voulez, d'une certaine façon, qui va se faire par la communauté avec des demandes entrantes ou nous qui allons aller chercher des restaurants dont on nous a parlé.
Le côté communautaire est très intéressant. C'est sur Instagram, du coup, Itik.
Oui, tout à fait. Itik, It Etik, que vous pouvez suivre sur Instagram, tout à fait.
Alors, on va parler des tours de table que vous avez fait. Donc, depuis la création. Ouais. Comment ça s'est passé?
Alors, on a lancé très rapidement la plateforme au mois de janvier 2021 avec des outils assez simples. Le but, c'était d'aller tester le marché le plus rapidement possible pour voir finalement si notre offre rencontrait de l'écho. Les choses ont été très rapides et c'est pour ça que donc un peu moins de 6 mois après le lancement, on a fait une première levée de pré-seed d'un peu plus de 400 000 euros, principalement avec des entrepreneurs issus de la food qui avaient déjà eu des beaux succès dans leur domaine. On peut notamment citer Bertrand Gélensperger qui était le cofondateur et ex-CEO de La Fourchette, The Fork, qui a été revendu plus tard à TripAdvisor. On travaille également avec Thomas Jonas qui est un entrepreneur français installé aux États-Unis à Chicago, qui a monté une très belle société qui s'appelle Nature's Fine, qui commercialise des substituts, des produits alternatifs à la viande en mode végétal à base de champignons, qui a levé un peu plus de 300 millions de dollars auprès du fonds Breakthrough Energy de Bill Gates. On a essayé d'amener des gens qui nous apportaient des capitaux, mais également qui nous apportaient une expertise dans le secteur de la food. Et puis plus récemment, au mois de juin de cette année 2022, on a fait un tour de seed d'un peu plus de 800 000 euros, là encore avec des business angels, mais avec une spécificité, c'est que nous, finalement, dans notre ADN, l'idée, c'est aussi de travailler, on l'a dit, hein, en communauté, mais aussi avec des partenaires, avec des restaurateurs, et le but, c'était aussi d'associer, finalement, à la valeur créée, au capital, même si c'est de façon symbolique, mais ces restaurateurs, les gens qui font la richesse d'Itik et son succès au jour le jour, et donc c'est pour ça que, dans ce tour de table, on a pu réunir à la fois des entrepreneurs, des investisseurs, des business angels, mais aussi des partenaires, des restaurateurs, des personnes même de nos équipes qui ont pu prendre une participation. Le but, c'est
d'embarquer tout le monde, en fait.
Exactement.
Et ça a plu, j'imagine, aux restaurateurs, ce côté.
Oui, tout à fait. On a eu un écho super. De se dire, on n'est pas simplement dans une relation de partenariat commercial, mais d'aller un petit peu plus loin, on porte des valeurs ensemble, autant le faire finalement jusqu'au bout.
Donc, vous êtes entreprise à mission et là, vous êtes en train d'obtenir le label B Corp.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que depuis juin 2021, on a décidé d'inscrire dans nos statuts une mission, une raison d'être, comme on dit. Le principe, c'est de dire qu'au-delà de sa vocation économique, hein, qui est le cœur, la nature même d'une entreprise, elle a un impact sur la société et que cet impact, il va au-delà son impact économique. Et donc, pour nous, c'était de faciliter l'accès à une alimentation qui soit plus durable, plus respectueuse de l'environnement et aussi des êtres humains. terrain. Pour nous, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va prendre une décision, on va se dire, est-ce que finalement cette décision, elle est alignée avec cette mission? Donc pour nous, c'est vraiment une philosophie, une façon de voir les choses. On a rejoint d'ailleurs à cette occasion un mouvement qui s'appelle le Mouvement Impact France, qui réunit des entreprises à mission et qui veulent aussi revendiquer finalement un rôle sociétal, un rôle presque politique, on pourrait dire, dans la cité. Donc nous, c'est vraiment une philosophie. Et puis de la même façon, donc on a commencé notre labellisation Bicorp. Donc aujourd'hui, on a obtenu le statut pending puisqu'on est une entreprise très jeune. Donc on a maintenant 12 mois pour passer du statut pending au statut.
C'est 12 mois, Bicorp.
Exactement, le ticket,
temps.
Tout à fait.
Et alors justement, cette certification Bicorp, à votre avis, qu'est-ce que ça pourra vous apporter en plus?
Alors, je pense que...
Est-ce que les consommateurs, ça va justement les toucher particulièrement?
Alors, nous, c'est quelque chose qu'on va mettre en avant sur notre expérience utilisateur. Mais je dirais l'objectif pour nous, principalement, c'est aussi d'adopter des bonnes pratiques. Parce que quand vous faites une certification Bicorp, en fait, vous posez beaucoup de questions sur votre impact environnemental, sur votre gouvernance, sur la diversité des profils dans votre entreprise. Donc, c'est aussi bien quelque chose d'interne que d'externe. Et je dirais, c'est peut-être d'abord quelque chose d'interne qui va vous permettre de vous structurer d'une façon qui soit alignée avec les valeurs que vous portez. Mais on ne sait pas forcément, nous, quand on crée une start-up, on a à la fois la casquette RH, la casquette marketing, la casquette juridique. Aujourd'hui, c'est plutôt en fait des guidelines qui vont nous permettre de nous améliorer et dès le départ d'avoir des bonnes pratiques. Quelque chose qui est important pour nous aussi, c'est de rendre à la communauté. Aujourd'hui, nous, on fait partie d'une association qui s'appelle One Person for the Planet, qui est une association qui vous permet en fait de reverser 1% de vos revenus, de votre chiffre d'affaires à des associations de protection de l'environnement, et ce qui nous semble aussi vertueux et logique en cohérence avec notre positionnement.
On vous sent vraiment passionné, c'est le cas de tous les associés, j'imagine. Comment c'est?
Alors on vient d'horizons assez divers. On a des personnes, notre CTO qui vient de la tech, lui qui a un passé d'ingénieur chez SFR, qui avait monté les réseaux embarqués téléphoniques de la SNCF, qui avait été confié à SFR à l'époque. On a des gens qui viennent du secteur de la food, notamment dans le marketing, qui avait créé une marque de distribution et de produits de spiruline. Donc on a des gens qui sont très passionnés par la food. Globalement, on aime bien manger chez Itik.
C'est ça qui vous a réunis.
C'est ça qui nous a réunis. Et puis je crois à un moment, comme beaucoup de gens, pendant le Covid, on s'est posé des questions sur finalement quel est notre impact sur notre société, sur l'environnement, comment on peut faire mieux, comment on peut aider, comment on peut mettre à profit ce qu'on a appris, nos compétences, pour un projet qui soit finalement un peu meilleur. Et c'est vraiment ce qui nous a poussé à nous réunir.
Et comment ça s'est passé? Vous travailliez déjà ensemble ou vous étiez amis? Comment
s'est
passé?
Alors pour certains, effectivement, on avait déjà monté des structures ensemble, plutôt dans le secteur. Moi, je viens personnellement du secteur du marketing et de la communication, du digital. Donc on avait des bonnes expériences sur tout ce qui est la création d'identité de marque, sur la question d'acquisition d'utilisateurs. Donc il y avait une bonne connaissance, notamment deux membres de l'équipe sur ces sujets-là. On avait travaillé ensemble depuis plusieurs années. On avait d'autres fondateurs, eux, qu'on a rencontrés sur le tard. Mais vraiment, ce qui nous a réunis, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est cet amour de la food et puis cette envie de porter un projet avec du sens.
Un petit mot peut-être sur l'actualité. On connaît le contexte macroéconomique qui se tend un peu, enfin davantage chaque jour, avec une inflation galopante. Comment vous envisagez l'année 2023, notamment avec cette inflation, et on connaît le pouvoir d'achat des Français qui baisse. Est-ce que vous avez mis des stratégies en place par rapport à ça? Est-ce que vous tentez de limiter les coûts pour les consommateurs?
Alors je crois que comme beaucoup d'entreprises, effectivement, on était dans une phase qui était un petit peu particulière de course à la croissance, avec des financements qui étaient beaucoup plus simples, du fait des taux d'intérêt qui étaient beaucoup plus bas, et comme vous l'avez dit, d'un contexte macroéconomique qui était plus porteur. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui se passe est probablement assez sain. Ça permet un peu de se reposer des questions sur ses fondamentaux, sur son business model, sur des problématiques de rentabilité, très concrètement. Donc effectivement, nous, on va avoir tendance à plus contrôler nos coûts, à rationaliser cette partie de notre activité, à essayer aussi d'aller adresser des verticales de business qui vont être plus porteuses en termes de rentabilité. Donc nous, c'est des discussions qu'on a avec notre board, évidemment, avec nos actionnaires.
C'est ce qui vous demande, la rentabilité avant tout et moins de croissance ou...
Alors, on n'est pas dans cet arbitrage-là aujourd'hui. On est vraiment plutôt dans un cheminement à se dire comment maximiser l'utilité pour notre consommateur. Je pense que dans ce genre de situation, ce qu'il faut se poser, et en règle générale comme question, c'est comment servir le mieux possible nos consommateurs, nos utilisateurs. Donc on les écoute. La première chose qu'on fait, c'est qu'est-ce qu'on peut faire mieux déjà pour vous. Et donc en fait, on a des réponses qui viennent, qui sont assez systématiques, qui vont dans le même sens. Donc typiquement, aujourd'hui, on voit qu'il y a des besoins de plus en plus importants en entreprise pour tout ce qui est le déjeuner ou même les dîners, la restauration de commandes groupées, par exemple, qui est des choses qu'on n'adresse pas encore beaucoup chez ITIC. Donc par exemple, un de nos axes pour répondre concrètement à votre question pour 2023, ça va être le développement d'une offre plus spécifique B2B, par exemple.
D'accord.
Donc c'est des choses comme ça.
Et là, vous visez quel genre d'entreprise?
Alors ça peut être des entreprises aussi bien de taille moyenne que des grandes entreprises, mais qui vont avoir ce besoin de se restaurer, de faire des commandes groupées, de faciliter aussi leur démarche, puisque toutes les entreprises aujourd'hui se posent des questions aussi sur leur impact environnemental. Donc comment on peut répondre à cette demande-là? Nous, on a beaucoup de demandes entrantes là encore. Donc on va être à l'écoute de ce marché-là et essayer d'y répondre de la meilleure façon possible. Et c'est souvent avec beaucoup de bon sens finalement qu'on va pouvoir au-delà des questions de croissance à tout prix, répondre aux problématiques de rentabilité.
Alors, on n'a pas parlé particulièrement du business model, on l'a compris, les consommateurs payent la livraison. Il y a un commissionnement aussi qui est facturé au restaurant.
Alors, effectivement, c'est un business model qui est assez connu. Il n'y a pas d'innovation de notre côté à ce niveau-là. On est une marketplace, très concrètement. Ouais. Donc, nous, on va avoir deux clients. D'un côté, le restaurateur auquel on va facturer une commission sur le panier vendu, d'une part. Et de l'autre côté, on a le consommateur final qui va payer des frais de service et de livraison. Donc aujourd'hui, nous, notre stratégie, c'est par rapport à d'autres plateformes d'être mieux disant en termes de taux de commission pour le restaurateur. On sait, et notamment, vous en parliez à l'instant, que les restaurateurs, sur le coût des matières premières, sont très tendus en ce moment.
Coût d'énergie aussi.
Exactement. Donc aujourd'hui, nous, notre but, c'est d'avoir des pratiques de commission qui leur permettent de s'y retrouver, finalement. Et de l'autre côté, de ne pas matraquer les utilisateurs finaux. Donc on va s'aligner sur les prix de marché en termes de frais de livraison et frais de service.
Est-ce qu'il y a des restaurants qui, pour 2023, envisagent de ne faire que la livraison, qui avait une salle et parce que il y a la crise énergétique, parce que ça coûte trop cher, est-ce qu'ils envisagent justement de se focaliser uniquement sur la livraison?
Il y a différents cas qui existent. Les restaurateurs aujourd'hui comprennent la manne de plus en plus importante que représente la livraison de repas. On parle d'un marché aujourd'hui dans le monde qui représente à peu près 200 milliards de dollars, qui devrait atteindre 350 milliards de dollars d'ici 2030. Donc on est sur vraiment une tendance de fond qui est là pour rester. Ça, les restaurateurs le comprennent bien. Après, ce qui est vrai, c'est que c'est un métier qui est un petit peu différent que la restauration en salle, qui pose des problématiques différentes à la fois en cuisine et également pour la transmission aux livreurs. Donc ce qu'on voit de plus en plus, c'est une professionnalisation de certains acteurs, c'est-à-dire des restaurateurs qui rencontrent des succès aussi bien en salle qu'en livraison, qui vont plutôt se spécialiser sur ouvrir une enseigne en plus, mais dédiée à la livraison. Et il y a des acteurs aujourd'hui qui se spécialisent sur le marché pour aider justement les restaurateurs à professionnaliser leur activité de livraison. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on voit de plus en plus. De là à abandonner l'activité en salle, je vous avoue, nous, très concrètement, dans notre expérience, on n'en a pas encore vu, mais en tout cas, de la spécialisation en plus de leur activité en salle pour la livraison, ça oui.
Ça, c'est quelque chose qui marche. Peut-être vos projets à moyen et un peu plus long terme?
Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on en a parlé. On a deux enjeux pour l'année 2023.
Donc,
trois le B2B. Enjeux. Le B2B, l'expansion de notre service aux principales villes de France. Ouais. Évidemment, l'amélioration de notre expérience utilisateur. Toujours le produit qui est au cœur de notre démarche. Faut le rappeler, on est un projet food, mais on est aussi un projet tech. Donc, sans la tech, y a rien. Donc, nous, l'amélioration de notre produit, c'est toujours au cœur de notre pensée. Et puis ensuite, pour les années à venir, donc on va avoir deux axes principaux de déploiement. Un axe de déploiement géographique, international, avec le UK et les principales villes européennes pour 2024 et 2025. Donc nous, qui va être un enjeu très important. Et puis un autre ensemble qui va être la diversification des typologies de produits qu'on va pouvoir proposer à nos utilisateurs. On voit aujourd'hui, on a beaucoup de demandes sur des produits d'épicerie, ça peut être des produits cosmétiques, même des produits spiritueux qui vont correspondre finalement à un cahier des charges qui va être le nôtre. Donc c'est des choses nous qu'on ne s'interdit pas, c'est pas dans notre focus aujourd'hui, mais ça fait partie de nos objectifs.
Parce qu'après il y a tout le côté logistique qui rentre en compte aussi.
Exactement, on va être sur des métiers un petit peu différents, à la fois voilà en termes de taille de produits qui vont être livrés, de conservation aussi qui vont pas se faire de la même façon, mais qui intéressent nos clients. Donc nous, si on peut être là pour répondre à cette demande, c'est tout à fait pertinent.
C'est un marché que vous étudiez en tout cas.
Exactement.
Rappelez-nous du coup l'Instagram et puis comment faire donc pour vous télécharger l'application.
Alors c'est très simple, soit vous allez sur l'App Store si vous avez un iPhone, soit sur Google Play si vous avez un téléphone Android, vous tapez Eatic, E-A-T-I-C, et vous allez pouvoir télécharger notre application. Vous pouvez aussi tout simplement aller sur eatic.fr, sur notre site internet, vous pouvez directement commander depuis votre ordinateur. Et puis si vous voulez suivre les nouveaux restaurants qui arrivent, les actualités, vous pouvez nous suivre sur Instagram, donc c'est Eatic sur Instagram. Voilà.
Et donc vous répondez aux messages, puisque c'est une communauté.
Exactement, c'est une communauté, on répond nous-mêmes aux messages, on est ravis qu'on nous recommande des restaurants qu'on n'aurait pas encore spotés ou qui ne seraient pas encore sur l'app. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages.
Et voilà, le message est passé. Merci infiniment Benjamin Lanoff.
Merci beaucoup Bérénice.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Objectif Startup. À très vite.
Objectif Startup, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Cowork La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.